Et c'est parti. Erev Tov Lekulam. Et on se retrouve pour notre étude hebdomadaire à Givat Shmuel. Et là, et bien voilà, et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous attaquer à un personnage de ces 100 dernières années, 150 dernières années, car En Mala Asot, Inyane de Yoma oblige, nous sommes à peine quelques jours de Pourim, et donc on est obligé de parler un petit peu de Pourim, mais vous allez voir que on va pas vraiment changer de notre style d'étude, parce qu'on va, oui, quand même parler d'un personnage en particulier. Le cours s'appelle « La personnalité de Pourim, deux points, Moshe Rabbeinu ». Donc on va essayer de comprendre un petit peu quel est le lien de Moshe Rabbeinu et de Pourim. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, eh bien, on se rappelle l'enseignement du Sefer HaZohar qui va nous dire Talmid Chacham Nikra Shabbat. Que le Talmid Chacham, hop là, voilà, je me relève dans la chaise, que le Talmid Chacham a un statut particulier, il a le statut de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que Talmid Chacham Nikra Shabbat? Mais ben, c'est Kushiak Dola. En vérité, nous dit le Sefer HaZohar, grâce et par l'intermédiaire du Shabbat, nous pouvons nous connecter à Kadosh Baruch Hu, je pense que je ne vous apprends rien, et bien de la même façon, on peut se connecter à Dieu au travers du Talmid Chacham. Seulement, lorsqu'on dit cela, eh bien il va falloir aller un petit peu plus loin dans l'explication. Parce que, de la même façon que nous savons qu'il y a plusieurs styles de Shabbatot, eh bien il doit y avoir plusieurs styles de Talmidei Chachamim. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il y a plusieurs styles de Shabbatot? Eh bien, il y a un Shabbat qu'on connaît qui s'appelle Shabbat, et puis il y a un autre Shabbat qu'on connaît qui s'appelle Shabbat. Oui, je ne suis pas en train de vous faire tourner en bourrique, ce n'est pas encore Purim Toire. Vous savez, dans les Yeshivot, il y a ce qu'on appelle Purim Toire. C'est, on dit un faux Dvar Torah pendant Purim. Un truc qui n'a ni queue ni tête. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Quand je dis qu'il y a Shabbat et Shabbat, eh bien, dans la paracha de Emor, donc dans le livre de Vayikra, lorsqu'on va faire la liste des différentes Shabbatot, on connaît le mot de Shabbat qui est utilisé pour parler de Shabbat. Mais on sait également que le mot de Shabbat est utilisé pour parler de Pessah. Lorsqu'on va nous dire « Mimachorat à Shabbat » pour nous parler de sacrifice de Korban à Omer, eh bien, on va utiliser le terme « Mimachorat à Shabbat » et on parle là-bas d'après les Prouchim, pas d'après les Tzedoukim, mais on n'est pas Tzedoukim, on est Prouchim. Donc, d'après les Prouchim, eh bien, ça fait référence à Pessah. Eh bien, si donc, nous avons un Shabbat qui est le Shabbat vendredi soir, samedi, et nous avons un Shabbat qui est Pessah, et en fait, tous les Yamim Tovim. Donc, on a d'un côté Shabbat, d'un côté Yom Tov, qui est aussi Shabbat. Aha. Mais en vérité, si on dit qu'il y a deux styles de Talmidei Chachamim, de Shabbat, c'est ça, eh bien, il y a également deux styles de Talmidei Chachamim. Il y a des Chachamim qui sont Miprinat Shabbat, et il y a des Talmidei Chachamim qui sont Miprinat Yom Tov. Quelle est la grande différence entre Shabbat et Yom Tov? Eh bien, la différence est très simple. Shabbat, ça vient directement et uniquement de lui. C'est-à-dire que tu peux pas décider quand va être Shabbat ou quand va pas être Shabbat. Shabbat, tous les 7 jours, punt, c'est Shabbat. Aval, Yom Tov, bien que la date du Yom Tov a été décrétée par Dieu, la façon d'y arriver dépend de moi. Puisque c'est Am Israël qui va décréter quand c'est le nouveau mois. Et donc, en fonction de cela, c'est nous qui décrétons quand va tomber Pessah, Shavuot, et ainsi de suite. Il y aurait donc des tzadikim qui viennent directement d'en haut et des tzadikim dans lesquels il y a une participation du tzadik. De quoi je parle? Eh bien, les amis, les tzadikim qui viennent d'en haut, c'est les tzadikim qui ont été choisis directement par Akadosh Baruch Hu. J'ai envie de dire, ils n'ont rien fait pour être choisis. C'est ce qu'on appelle les avot. Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Il y a un deuxième. Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Eux, ils sont Miprinat Shabbat, dans le sens où Akadosh Baruch Hu les a choisis, Zekdushat HaSegula, dans le langage du Rav Kook, en d'autres termes, ils sont Miprinat Shabbat. Mais il y a des tzadikim qui sont Miprinat Yom Tov. C'est-à-dire que bien que leur Neshama ait été choisi par Akadosh Baruch Hu, ça va dépendre de eux, de comment ils se réalisent, pour pouvoir remplir leur rôle. Alors, combien de tzadikim comme ça on va trouver? Eh bien, combien de Yom Tov avons-nous? Ah ben, c'est pas très compliqué. Nous avons Pessah, Shavuot, Sukkot, et Rosh Hashanah Yom HaKippurim, Yamim Noraim. Eh bien, face à ces quatre fêtes, nous avons quatre tzadikim. Yosef, Moshe, Aaron et David. Yosef qui est directement lié à Pessah. Pourquoi ? Eh bien parce que Yosef symbolise le début de la délivrance. Yosef qui va donner lieu à Mashiach ben Yosef, c'est le point de départ de la libération. Pessah est le point de départ de la sortie d'Égypte. Et je vous ferai remarquer que lorsqu'on sort d'Égypte, on ne peut pas sortir d'Égypte tant que Moshe ne prend pas avec lui Atzemot Yosef. Comme nous dit le verset, Pakod Yifkod Elohim Etrem, Va'alitem et Atzemotaim Mizei Etrem, Yosef a demandé qu'on le ramène avec nous lorsqu'on sort d'Égypte. Yosef est donc directement lié à la Géoula de Pessah. Shavuot, évidemment, c'est Mahamad Ar-Sinaï, qui est complètement dirigé vers Moshe. C'est lui qui a le contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va être capable de nous faire descendre la Torah des cieux jusqu'ici. Donc Shavuot, c'est Moshe. Sukkot, c'est Asuka, c'est Anané Akavod, c'est Hanouka Amizbeach. Tous les motivim qui sont reliés à Aaron HaKohen. Et Yamim Anoraim, et Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, qui sont les jours où on couronne Akadosh Baruch Hu, eh bien, évidemment, c'est Keneged, Melech Israël, David. Vous allez me dire, ça fait maintenant 8 minutes qu'il parle, c'est intéressant ce qu'il dit, mais quel rapport avec Purim? Ah, les amis, si on a dit qu'il y avait des fêtes qui étaient Miprinat Shabbat, de Seleavot, et qu'il y a des fêtes qui sont Miprinat Yom Tov, et c'est Moshe, Aaron, Yosef et David. Il y a en plus des fêtes des Oraïta, et bien une expression de ces fêtes, mais qui provient de la Kdusha du Ham Israël, qui s'appelle Chagim des Rabanan. Et là encore, dans nos Chagim des Rabanan, et bien nous retrouvons également ces tzadikim qui leur sont intimement liés. Il y a également quatre Chagim des Rabanan, comme il y a quatre Chagim de Oraïta, si on rajoute, si on met ensemble Rosh Hashanah et Yom HaKippurim en tant que Yomim Anoraim. En l'occurrence, séparer Yomim Anoraim, Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, et vous rentrez ainsi Shlomo dedans, et il le mérite largement. Mais nos quatre fêtes des Rabbanan, il s'agit de Chanukah, Purim, Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim. Et bien là encore, nous avons nos personnages qui leur correspondent. Hanouka, je pense que les choses sont claires. C'est une fête faite par les Kohanim. C'est donc bel et bien Aaron HaKohen. Yom HaAtzmaout, évidemment, vous avez compris, l'indépendance, c'est directement relié à Yosef, comme l'Égypte, comme Pessah. Yom Yerushalayim, le jour où on revient dans la ville de la Meloucha, c'est évidemment David HaMelech. Lorsqu'on va reconstruire le troisième Beth Amikdash, on fera évidemment une fête des Rabbanan qui sera Keneged Shlomo HaMelech. Pourim. Qui est donc le tzaddik, le personnage de Pourim par excellence? Eh bien, les amis, c'est Moshe Rabbeinu. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne nous dis pas c'est Mordechai, c'est Esther? Parce que vous aurez compris qu'on vient de parler des Ushpizin. On parle de ces sept personnages qui vont être tout simplement les piliers de l'identité d'Israël. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. En d'autres termes, Pourim, c'est la journée de Moshe. D'ailleurs, eh bien, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pourim, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe. Eh oui, Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. Nous, Baruch HaShem, il est né, d'après nos sages, circoncis. Mais même quelqu'un qui est né circoncis, eh bien, il se doit d'avoir quand même ce qu'on appelle atafat dam, de faire couler une goutte de sang, tout de même. Et donc, c'est quand la Brit Mila de Moshe, Pourim, le 15 Adar. Et pour tous les Givat Shmueliens qui disent, mais non, Pourim, c'est le 14 Adar, excusez-moi, mais non. Pourim, c'est le 15 Adar, et on va y revenir dans quelques minutes. Ainsi donc, vous commencez à comprendre que, effectivement, mon cher Abeno, plus que n'importe qui, est la personnalité phare de Pourim. À tel point que dans la Megillah, Esther, on va nous dire, dans le chapitre 8, 9, au verset 23, si je ne me trompe pas, il y a marqué, Vekibel Yehudim et Asher Echelou la Asot. Mais c'est Vekibel Yehudim. Nous dit le Talmud, mais on ne devrait pas dire Vekibel. On devrait dire Vekibelou. Alors le Talmud répond Vekibel parce que c'était Keish Echad Belev Echad. Le Zohar, lui, va dire Yesh Echad Shekibel Al Shem Kulam. Il y en a un qui a reçu au nom de tout le monde, Vemise Zemoshe Rabbeinu. Vekibel Yehudim. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Am Israël avait accepté la Torah de Moshe. Mais uniquement la Torah de Moshe chez Birtav. La Torah chez Béalpé, ils ont accepté Beratson volontairement à Pourim. En d'autres termes, la Torah de Moshe peut véritablement s'exprimer à Pourim. Pourim est donc la date de Moshe Rabbeinu. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire que Pourim est la date de Moshe Rabbeinu? La Torah de Pourim, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vous ai dit il y a quelques minutes que, et ne m'en veuillez pas à Givat Shmuel, Pourim, c'est pas le 14 Adar. Pourim, c'est le 15 Adar. Alors, c'est pas du chauvinisme jérusalémitain. C'est que toutes les fêtes, elles sont le 15. Eh oui, Pessah, c'est le 15. Pessah Sheni, c'est le 15 Nissan, Pessah. Pessah Sheni, c'est le 15 Iyar. Vous allez me dire, oui, mais Shavuot, c'est pas le 15. Oui, d'accord, mais Shavuot, il a pas de date. Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. C'est-à-dire son point de référence, c'est Pessah. Il se trouve que ça tombe le 7 Sivan, 6 Sivan. Mais c'est pas. Ensuite, nous avons évidemment le 15 du mois de Av, Tu Béav. Ensuite, nous avons évidemment le 15 du mois de Tishrei, Sukkot. Nous avons le 15 Shevat. C'est-à-dire que vous comprenez bien que la majorité des fêtes, c'est le 15. Pourquoi c'est le 15? Parce que le 15, c'est le Tokef du mois. C'est le jour de la pleine lune. C'est le moment principal du mois. Et donc, il est tout à fait naturel que les fêtes soient le 15. Certainement pas le 14. Alors, tu dis Vena Aforou, Nachon. Mais quoi, Vena Aforou? Alors, tu dis, on fait le 14. Stam Balanou. Oui, mais ça, tu viens de me donner une réponse qui est fantastique, qui est une bonne réponse de religieux, qui dit « Karakatouv ». C'est ça que tu viens de me dire. Tu viens de me dire « Karakatouv ». Quand j'ai commencé à étudier la... Hein ?
C'est comme ça que ça marche, quoi.
« Karakatouv ». Alors, quand j'ai commencé à étudier la Torah, et que je disais au Rav Cherki, quand il posait une question, je disais « Kacha Katouv », il me répondait « Ata Kar Katouvnik ». C'est-à-dire, toi, tu es un homme de… C'est marqué comme ça. Mais c'est ce que tu dis, c'est enfoncer une porte ouverte. Oui, c'est marqué comme ça, mais la question, c'est pourquoi c'est marqué comme ça ? Bien sûr que c'est Nachon que c'est marqué comme ça, mais la question, c'est pourquoi ? Eh bien, il faut comprendre. D'abord, au niveau de l'idée, on comprend que la fête, elle devrait être le 15. C'est le jour qui est plus propice à la fête. Maintenant, d'un autre côté, oui, dans la Megillah, on voit que ça se passe aussi le 14. Lama. Eh bien, pour répondre à Lama, eh bien, en bon juif, je vais répondre par une autre question. C'est comme c'est que nous a appris Rabbi Yaakov dans un de ses textes fondamentaux, dans une certaine voiture allant rue des Rosiers. En vérité, c'est pas vraiment Rabbi Yaakov, c'est Rabbi Zeligman qui nous a appris ça. Que lorsqu'on pose une question à un juif, il répond par une autre question pour avoir le temps de réfléchir à la réponse de la première question. Alors, ma question est la suivante. Comment ça se fait que la halakha de savoir si on lit le 14 ou le 15, ça dépend de si tu es dans une ville qui a des murailles du temps de Yoshua bin Nun. Ma kesher entre Yoshua bin Nun et Purim. La fête de Purim se passe à peu près 1300 ans après Yoshua bin Nun. Quel rapport ? Nous dit le Talmud à Yerushalmi, et c'est Nifsak la Halakha dans le Rambam, que c'est pour l'Echalek Kavod, l'Eretz Israël, qui était vide de juifs pratiquement à l'époque de Purim. On veut se rattacher à Eretz Israël. La loi de 15 ou 14 nous rattache directement à notre entrée en Israël. Jérusalem, on fait le 14, on fait le 15, mais c'est pas que à Jérusalem. À Hebron, on fait le 15 également. C'est-à-dire dans les endroits qui sont les villes de base du Ham Israël depuis qu'on est rentré avec Yoshua bin Nun. En d'autres termes, eh bien, quand on te dit Venaaforu, on fait le 14. Nachon, Lama, eh bien parce que la fête n'ayant pas eu lieu au bon endroit, puisque on aurait pu, on n'était plus censé être à Shushan Habira, on avait reçu la permission de Koresh de repartir à Jérusalem, on aurait dû ne plus être là-bas, on y était pour X raisons, donc comme la fête n'a pas eu lieu à l'endroit prévu, elle a bougé d'endroit, eh bien elle a bougé également dans le temps. Et au lieu d'être le 15, elle est le 14 à l'extérieur de Jérusalem. Ce qui explique d'ailleurs le minhag qui est devenu halakha, qu'on n'a pas le droit de construire des maisons et de planter des arbres à Purim. Lama, eh bien parce que comme il s'agit d'une fête de Chutz La'aretz, tu ne peux pas créer une dimension d'éternité en plantant des arbres et en construisant une maison pendant la fête de Purim. Sauf que qu'est-ce que je viens d'expliquer ? Je viens d'expliquer que donc Purim, c'est une fête de Chutz La'aretz qui n'a pas réussi à y rentrer en Eretz Israël. Nous, Zemoshe Rabbeinu. Zemoshe Rabbeinu, qui lui aussi n'a pas réussi à rentrer en Eretz Israël et qui a laissé son élève Yoshua bin Nun continuer le travail. On commence à comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'ailleurs, je me permets de dire une dernière chose. Ce Shabbat, on a fait Shabbat Zachor. On a lu la paracha de Zachor. Mais il y a une explication qui nous vient de Rabbi Israël de Rougine, un des grands maîtres de la Chassidoute, qui dit que Shabbat Zachor, barour, qu'au niveau de la halakha, c'est parce qu'on lit paracha de Zachor. Mais qu'il y a une autre explication de pourquoi c'est Shabbat Zachor. C'est juste qu'il n'y a que les Ashkenazim qui peuvent le comprendre. Parce que c'est que les Ashkenazim qui prononcent le Kamatz en haut. Pourquoi ? Parce qu'ils vont te dire qu'en fait, non, c'est pas Shabbat Zachor, c'est Shabbat Zucher. Parce qu'en vérité, vous savez, les Ashkenazim, ils ont des minagim fantastiques. Comment transformer quelque chose de joyeux en race ratique. Ça, c'est un secret que il n'y a que nous qui avons. C'est-à-dire que quand tu es chez une famille séfarade et qu'ils viennent d'avoir un petit bébé, la veille de la brit, tu fais ce qu'on appelle brit Yitzhak. Ou alors communément appelé, on se fait un Zohar. Tu invites les gens, on dit des petits passages du Zohar, on fait des tfilotes et on mange et on est content. Chez les Ashkenazim, le Shabbat qui précède la brit Mila, il y a toujours un Shabbat qui précède la brit Mila, eh bien, on va faire ce qu'on appelle Shulam Zucher. On vient souhaiter la bienvenue au petit garçon qui vient d'arriver. Vous allez me dire, sympathique. Oui, mais on le fait avec des aliments de deuil. Des pois chiches qu'on va appeler harvest, des œufs durs, tout ce qu'on sert à un endeuillé. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la Neshama, elle est endeuillée, parce que non seulement elle a quitté le monde des Neshamot où elle était très bien, et en plus elle arrive ici, et en plus dans un corps de non-circoncis. Ça m'en dirait Bisroel Mirujin. Mais il y a eu un Shulam Zucher qui était Parasra. Il y a eu un Shulam Zucher qui était sa mère, puisque la Neshama, elle est descendue dans un corps, mais un corps circoncis. Puisque Moshe Rabbeinu est né circoncis. Et son Shulam Zucher, c'est Shabbat Zachor, le Shabbat avant Purim. Alors, Purim, c'est donc la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais j'arrête pas de dire la Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Quoi, il y a une autre Torah? À part la Torah de Moshe, il y a une autre Torah? Et la réponse, vous la connaissez. C'est que oui. Bien sûr qu'il y a une autre Torah. Je vous rappelle que dans la Torah, lorsque le dévoilement divin se présente aux oreilles du Ham Israël, il passe par deux chaînes. Tu peux te brancher soit sur la chaîne Moshe, soit sur la chaîne Aaron. Puisque dans la Torah, on va nous dire « Daberu el kol adat bene Israël ». Rashi demandera tout de suite « Ma ve daberu ?»« Ma daberu ?»« Ve alone maratat daber ?» Normalement, c'est Dieu, il parle à Moshe, Moshe, il parle au peuple juif, mais il parle à Moshe et à Aaron. Dit le Talmud, repris par Rashi, qu'en fait, Dieu, il parlait à Moshe, il parlait également à Aaron, et Moshe et Aaron se disaient l'un l'autre, « Mashamata, qu'est-ce que tu as entendu ?» Et l'autre lui répondait, « Et toi, qu'est-ce que tu as entendu ?»« Vadibur yotse mi ben shenem. » Et là, finalement, l'enseignement vient des deux. En d'autres termes, il y a une Torah de Moshe, une Torah de Aaron. Quelle est la différence entre ces deux Torahs? Bien, vous le connaissez, on a étudié ensemble déjà. Que la Torah de Aaron est pragmatique, et que lorsque Am Israël faute, eh bien, la Torah de Aaron est capable de descendre dans la faute pour le sauver de là-bas. Alors que la Torah de Moshe est entière, totale, et n'est pas prête à accepter aucune pshara, aucun compromis. Ainsi, lorsque Am Israël veut faire le veau d'or, eh bien Aaron, qui viachol, va participer en leur disant « Amenez-moi l'or, amenez-moi ci, amenez-moi ça » et finalement Aaron va faire le veau d'or. Mais il fait ça pour ne pas les laisser seuls dans la faute, pour pouvoir les tirer de la faute et les ramener dans le droit chemin. Sauf que Moshe, lorsque lui, il arrive et qu'il voit le veau d'or, boum, cassé, table de la loi, boum, cassé, veau d'or, boum, les Lévim, vous prenez avec Yoshua, et vous me tuez tous les responsables et on tue 3000 personnes. Il n'y a pas de pragmatisme, monsieur Moshe. Chez Aaron Yesh, qui est rapport avec Purim. Noho. Purim, on a dit, c'est une Torah Trutz Laaretz. Et c'est également la fin de la prophétie. Nos sages vont nous dire, dans le Talmud et dans le Zohar, que Malachi, le prophète Malachi, c'est Mordechai. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Malachi, si son vrai nom de sa maman, c'est Mordechai? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Malachi? Kiwaya Mishne la Melech Basof. Donc Malachi, parce qu'il est un peu le roi, le deuxième du roi. Sauf que Malachi, qui est le dernier des prophètes, va nous dire, dans les derniers versets de la prophétie, il nous dit, Zichrou Torah Moshe. Zirou Torah Moshe Avdi, et non pas Torah Aaron. Lorsque se termine la névoie, tu ne peux plus utiliser le pragmatisme d'Aaron. Le pragmatisme d'Aaron se retrouve dans ce qu'on appelle dans la halakha Horat Shah Shel Navi. Que des fois, un prophète, pour amener au dévoilement de Dieu, il peut se permettre de transgresser la Torah. Mais ça, il n'y a que le prophète qui peut le faire. À l'époque où se termine la prophétie Malachi, qui n'est autre que Mordechai, qui n'est autre que le moment de Pourim, on dit maintenant c'est terminé. Il n'y aura plus que Torah Moshe. Tov. Donc la Torah de Pourim, c'est une Torah qui ne peut plus aller flirter avec autre chose que la halakha. Mais quoi ? La Torah de Moshe, ce n'est que la halakha ? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans la Torah de Moshe une dimension de Esther Panim ? N'y aurait-il pas dans la transmission de la Torah de Moshe une Torah Glouya et une Torah Be'Esther ? Et vous voyez directement où je veux en venir. La Torah Glouya de Moshe, la Torah officielle de Moshe, la Torah Taniglé, c'est la Torah de Mordechai, de Malachi. Mais la Torah de Esther, c'est la Torah de Moshe qui est cachée. Quelle est cette fameuse Torah qui est cachée, Rabotai ? Et pourquoi je dis que Moshe est tellement lié avec Esther ? Mais, mes amis, ils ont la même destinée. Ils sont reliés. Ils vivent pareil. Moshe, Esther, même combat. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe, Esther, même combat ? Mais Rabotai, de la même façon que Moshe sait qu'il a des parents juifs, mais il grandit dans le palais de Pharaon, Esther, elle sait très bien qu'elle vient faire partie de la dynastie juive la plus profonde, elle est d'une descendante de Shaul HaMelech. Mais d'un autre côté, elle va vivre dans le palais de Achashverosh. Il est évident qu'il y a une dimension de connivence entre Moshe et Esther. J'irai même plus loin, les amis. Quand on demande dans le Talmud, alors là, il y a une remarque du Talmud qui est incroyable. Le Talmud nous dit, dans le traité de Choulin, à la page 139, nous dit le Talmud, Moshe mina Torah minayin. Genre, où est marqué Moshe dans la Torah ? Tu vois pas la question. Parce qu'il n'y a jamais marqué « Vaïdaber Hachem el Moshe les morts », tu vois, par exemple. Ce verset, il revient 70 fois. Mais non, le Talmud, il dit « Moshe minatora minayin ». Bonne question. Ben, vous savez, où est-ce que le Talmud va trouver Moshe ? Dans un verset du livre de Bereshit. C'est le seul livre où il n'apparaît pas, tu as raison. C'est-à-dire, dans Shemot, il y a Moshe, dans Vayikra, il y a Moshe, dans Bamidbar, il y a Moshe, dans Dvarim, il y a Moshe. Même dans Yahushua, on parle de Moshe. Mais non, le Talmud dit, d'où on sait qu'il y a Moshe dans la Torah ? Bien que je te cite un verset de Bereshit, Bichal, de la paracha de Bereshit, qui nous dit la chose suivante, au chapitre 6, verset 3, qui nous dit, « Le'olam lo yadon ruchi ba'adam » Lo yadon ruchi ba'adam le'olam ki beshagam u basar » Nous disent nos sages, Beshagam ou Bassar. Mazé Beshagam, Gematria Moshe. Boum, il est là-bas. C'est le verset qui introduit le déluge. Pour nous dire que Moshe, lui aussi, comme l'introduction au déluge, où il va y avoir quelqu'un qui va être 40 jours, 40 nuits, dans une teva, sauvé des eaux, comme un Moshe Rabbeinu qui va lui aussi être dans la teva, sauver des eaux. Ok. Donc tu m'as trouvé Moshe dans Bereshit. Mais quel rapport avec Pourim ? Ben, quand tu regardes la page de Gemara du Talmud qui me dit Moshe mina Torah minayin et qu'on a donné la réponse, juste après, on est dans la même sugya. La Gemara elle dit Mordechai mina Torah minayin, Esther mina Torah minayin, ve'aman mina Torah minayin. comme si on ne pouvait pas dissocier Moshe de Esther, Moshe de Mordechai et Moshe de Haman. Et effectivement, Moshe, on a dit, il est relié à Mordechai par Torah Taniglé, il est relié à Esther par Torah Tanistar, et il est relié à Haman et à Achashverosh par sa relation avec Pharaon. Vous vous rappelez de Pharaon d'Égypte ? Il a fait deux décrets, Pharaon. Le premier, de tuer tous les enfants garçons, et le deuxième, de laisser vivre toutes les jeunes filles. Pourquoi c'est un décret de tuer les garçons ? Ben, c'est évident. Mais pourquoi c'est un décret mauvais de laisser vivre les jeunes filles ? Ben, parce que s'il n'y a plus de garçons, avec qui elles vont se marier les jeunes filles ? Avec des Égyptiens. On veut s'approprier la matrice d'Israël. Haman veut tuer Amisraël. C'est le premier décret. Achashverosh va s'approprier de la matrice d'Israël en se mariant avec Esther. Rabotai, Moshe Rabbeinu, c'est donc Mamash Purim Toire, mais pas une blague. La Torah de Moshe, c'est la Torah de Purim. Et on a dit, cette Torah, elle est faite d'un côté de Halakha, et de l'autre, elle est faite de Astara, de quelque chose de caché. De quelque chose de caché. Vous savez quoi ? On va y aller à cette. On va y rentrer dans cette histoire de Torah cachée, de Torah dévoilée face à une Torah voilée. Vous savez quoi ? On va le dire autrement. Il y a une Torah démasquée et il y a une Torah masquée. Comme si à Pourim on devait mettre des masques. Comme si à Pourim on se déguisait. Makarasham. Cette dimension de Torah qui est voilée, qui est cachée, qui est masquée, ce qu'on appelle Torah Takabala, les secrets de la Torah. Eh bien, comment s'appellent les secrets de la Torah d'après la Torah ? Mais chez l'Agdola. Comment ça s'appelle ? Les secrets de la Torah. Eh bien, les secrets de la Torah. Le plus haut niveau de compréhension de la Torah, d'après Sefer HaZohar toujours, nous explique qu'il y a une dimension qui s'appelle Reisha de Lait Yada. Arosh Abilti Noda. C'est-à-dire une dimension ultime qui s'appelle Ad de Lo Yada. C'est-à-dire que tu comprends tellement que tu ne comprends pas. Que tu arrives à Ad de Loyada. Nous, on y arrive en buvant un petit coup. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé lorsqu'il est arrivé à l'apogée de sa relation avec Dieu. Ce quelqu'un, vous l'aurez compris, c'est Moshe Rabbeinu. Dans le livre de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu redescend de la montagne à Yom Ma, quel jour ils vont descendre la montagne la deuxième fois avec les deuxièmes Louchot Abrit ? C'est quel jour ? Yom, comment tu dis ? Viens, on le dit en entier, tel qu'il est marqué dans la Torah. Tu as raison. Mais viens, on va l'appeler comme il est marqué dans la Torah. Yom Kippourim. Le jour qui est comme Pourim. Kippourim. Alors, bien sûr que dans la Torah, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire « Leit Kaper ». Mais on ne peut pas ne pas entendre. Kippourim comme Pourim. Lorsque Moshe Rabbeinu revient avec les deuxièmes tables de la loi à Kippourim, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Je vous cite le verset. Nous sommes dans le livre de Shemot. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on nous dit ? Lorsque Moshe redescend, on nous dit dans le livre de Shemot, au chapitre 34, où Moshe... Loyada Kikaran Orpanav. Moshe, lorsqu'il descend, il a un effet zoom. C'est-à-dire, dans zoom, tu peux mettre des effets. Et bien, Dieu il lui a mis un effet zoom quand il est descendu de la montagne. Il y avait sa face qui éclairait. Karan Orpanav. Bon, Michel-Ange, il n'a pas compris. Il a lu Karan, Keren, il lui a fait des cornes. Bon, c'est parce que Michel-Ange, il n'a pas compris. Mais en vrai, qui Karan, Or, Panav, Yeshpo, Keren, Or, ou Moshe, le Yada, on a l'habitude de traduire, et Moshe ne savait pas que sa face éclairée. L'onachon, qui, là-bas, ça ne veut pas dire car. Qui veut dire Kaacher? Ou Moshe Loyada? Quand est-ce que Moshe était arrivé à cette compréhension de Loyada? Lorsque sa face éclairait. Tu avais un indicateur. Lorsque la face de Moshe éclaire, tu sais qu'il est en train d'atteindre Adveloyada. Et alors, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa face qui éclaire et que Amisraël a peur? Vayireu migeshet elav. D'abord, dans un premier temps, Moshe leur dit, bon, venez, on étudie, c'est pas grave. Je mange pas, j'éclaire, c'est pas grave. On nous dit, une fois qu'il avait terminé de leur enseigner la Torah, Semalpanav Masve. Il a mis un masque de Pourim dès qu'il avait fini de faire son shiur. Pour montrer au peuple juif qu'il y a une Torah qu'on enseigne de manière dévoilée, et il y a une autre Torah qu'on enseigne de manière voilée. Cette Torah, d'ailleurs, elle ne s'exprime pas toujours par des mots. Vous savez, lorsque Moshe Rabbeinu a vu toutes les générations, nous dit le Talmud, et qu'il a vu Rabbi Akiva se faire torturer à Césarée par des peignes de fer par les Romains, il a dit « Zot Torah vezot Sarah ». Quoi, c'est ça le mérite de cette grande Torah? Et Dieu lui a répondu, Shtok, kach alab machashava lefanai. Tais-toi, car c'est ainsi que je le pensais. Mais d'abord tais-toi. Parce que si tu veux pouvoir comprendre, il faut d'abord que tu taises ta façon habituelle de comprendre. Le dit le Rav Yitzhak Utner dans son livre Pachad Yitzhak, qu'il y a des élèves qui comprennent ce que le Rav enseigne lorsque le Rav parle. Il y a d'autres élèves, beaucoup plus profonds, qui comprennent ce que le Rav enseigne lorsque le Rav se tait. Vous savez, dans le Sefer Torah, il y a des shurot rekot, il y a des blancs, des fois, dans le Sefer Torah, entre des mots, entre des phrases. Lama, nous disent nos sages, que dès la tête, le Moshe revach leidbonen. Pour donner à Moshe le temps de comprendre ce qui a été dit de manière dévoilée. Il faut monter, 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 comprendre ce qui a été dit de manière également voilée. Moshe est le premier qui arrive à la dimension de Adeloyada. Moshe est celui qui nous enseigne la Torah Yodat, Yedua, et également la Torah de Adeloyada. Moshe, il est Mordechai ve Esther. Une fois qu'on a dit ça, les amis, eh ben on peut comprendre ce que nous disent nos sages dans le traité de Megillah. Vous savez, il y a un verset qui dit « Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai ». C'est à propos de l'histoire de Biktan et Teresh qui voulaient tuer le roi et que Mordechai était au courant et qu'il a dit à Esther et Esther elle a dit au roi « Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai ». Esther a dit au roi au nom de Mordechai. À cause de ça, tout va être dévoilé. Parce que tout d'un coup, on va se rendre compte que Mordechai et Esther sont très très proches. Et d'autant plus qu'ils ont aussi une proximité avec le peuple juif. Parce qu'eux-mêmes, ils sont juifs. Et ainsi de suite. Cette phrase de la Megillah sert de point de départ à la Mishnah dans Pirkei Avot. Qui nous dit « Kol ha'omer » qu'est-ce que je raconte? Pas dans Pirkei Avot, autant pour moi. Dans dans la Braïta de Maseret Megillah, qui nous dit Kol Omer Davar Beshem Omro Mevi Geula Laolam Sheneemar Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pas chute. Kol Omer Davar. La phrase, elle marche pas en hébreu. Normalement, on devrait dire Kol Omer Amira. ou alors kol amedaber davar. Eh bien, tout simplement, que Dieu a créé le monde be'asara ma'amarot. Nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1. Mais le problème de ces ma'amarot, eh bien, c'est qu'ils masquent Dieu. Lorsque Dieu décide de se dévoiler, il le fait par les aseret à diberot. En d'autres termes, kol ha'omer davar. Tout celui qui transforme les ma'amarot qui cachent Dieu en dibrot qui dévoile Dieu, mevi geula la'olam. Qui l'a fait? Moshe Rabbeinu. Qui a continué à le faire? Mordechai v'Esther. Rabotai, c'est de ça qu'on parle. C'est pas chouette de ça qu'on parle. Quelle est l'essence de Pourim? Est-ce que c'est Torah Taniglé ou est-ce que c'est Torah Tanistar? Bémet Zéchéla Gdola, à votre avis. Quelle est l'essence de cette fête? On a dit que c'était la fête de Moshe. Mais on a dit que Moshe, il était Gam Vegam. Alors, quelle est l'essence de Pourim? C'est Mordechai ou c'est Esther? Zéniglé ou Zénistar? Le traité de Megillah dans la Mishnah commence par une question, enfin même pas une question, commence par une information. On nous dit Megillah nikret beyudalev beyudbet beyudgimel beyudalev betetvav lo pachot velo yoter. C'est qu'on apprend qu'il y a plusieurs jours qui sont propices à être pourim. Alors la Gemara, la première sugya, le premier débat dans le Talmud de traité de Megillah va être d'essayer de comprendre d'où vient l'idée de rajouter deux jours. Parce que, pour tout le monde, c'est clair que le 14 et le 15, c'est les journées de Pourim. Pourquoi pour tout le monde c'est clair? Parce que c'est marqué comme ça dans la Megillah. Et pourquoi c'est marqué comme ça dans la Megillah? Je reviens à ce que tu disais au début. Parce que, bah, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le 14, on a fini d'exploser nos ennemis en dehors de Shushan. Et le 15, on a fini d'exploser nos ennemis à Shushan. Donc les événements se sont passés le 14 et le 15. Donc c'est normal que la fête soit le 14 et le 15. Mais, et le 13 dans tout ça? Nous dit le Talmud, le 13, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi le 13 Adar, c'est aussi un jour propice à Pourim. Lama? Parce que les coulées Alma l'obligé, tout le monde est d'accord de dire que le 13 Adar, ça a été le jour important, le jour principal de la guerre. Donc c'est évident que c'est l'événement de Pourim. La question du Talmud, c'est d'où on a appris qu'on pouvait rajouter le 11 et le 12. D'où on sait qu'on peut rajouter encore deux jours à Motay. Eh bien, c'est une marloquette. C'est une marloquette, c'est la première marloquette du traité de Megillah. Et les Amoraïm, il y en a deux qui se disputent. Mais pourquoi ils se disputent? Parce que chacun, il dit, tu me dis qu'on peut faire deux jours en plus, faut les apprendre de la Megillah. Et donc, ils ont chacun des versets différents pour apprendre. Il y en a un qui dit, il y a marqué dans la Megillah que les journées de Pourim doivent être fêtées Bismanehem. Et Zmanehem, ça vient rajouter deux jours. Pourquoi? Il y a parce que tu aurais dû dire Bismanam, mais comme tu as rajouté Yud Vehei, Zmanehem, eh bien Yud Vehei, ça vient rajouter encore deux jours. Ok. L'autre avis dit Lo Mashmalei. Anilom et Kabel, je n'accepte pas cette explication de Zmanehem, Zman, Zmanam, Zmanehem, qu'on rajoute deux lettres alors ça rajoute deux jours. Non, moi j'apprends, parce qu'il y a marqué dans la Megillah, Kayamim, Asher Nachubahem Ayoudim. Ah, il y a marqué Kayamim, comme ces jours-là, donc comme les jours de base, il y en a deux, et qu'on dit comme ces jours-là, donc ça en rajoute encore deux. Tov, génial. On vient d'étudier de la Gemara. Et c'est Béhémet, ça, le débat? De savoir si tu apprends parce qu'il y a marqué Kayamim ou Bismanem, c'est un problème technique? Pas du tout. Toute la Sheela, c'est quoi Pourim? Est-ce que Pourim, son essence, c'est Kayamim? Ou est-ce que l'essence de Pourim, c'est Zmanehem? Je m'explique. Kayamim. Si tu apprends l'essence de Pourim du Kaf, Kaf, c'est la première lettre du mot Kemo. C'est ça que ça veut dire. Ze, Keze, Kayamim, ça veut dire c'est comme, même en français ça passe, c'est comme ces journées. Donc la question est de savoir, est-ce que Pourim, l'essence de Pourim, Ze, Keilu, Ze, Kom, c'est-à-dire le dimion, l'imaginaire, ce qui est au-delà de du conscient, c'est comme ça, mais c'est pas ça. Ou alors, est-ce que l'essence de Pourim, c'est Yud Vehei? Yud Vehei, Rabotai, c'est un des noms de Dieu, Ya, qui be Ya Hashem Tzura Olamim. Mais c'est Ya, et bien d'après l'enseignement de la Kabbalah, les lettres Yud Vehei forme un dévoilement de Dieu qui n'est autre que Chochma ou Bina. Yud, c'est Chochma, Vehei, c'est Bina. Donc c'est quoi l'essence de Pourim? C'est à Chochma ou à Dimion? La compréhension, la sagesse ou l'imaginaire? Torah Taniglé ou Torah Tanistar? Quel est le moment le plus important de Pourim? La lecture de la Megillah? Ou c'est Niglé? Ou Atalomed et ta Megillah? Ou alors le Mishté? Où tu es Badimion complètement? Tu es dans l'imaginaire complètement grâce à tes quelques petites coupes? Ad Deloyada. Quelle est Béhémet l'essence de la fête de Pourim? Le Maharal de Prague va écrire un livre commentaire sur Pourim qui s'appelle Or Hadash. Et dans son commentaire sur Pourim, le Maharal dit une phrase révoltante. Il dit Bayom Azé de Pourim En Kdusha Bayom Azé Klal Uchlal. Or Hadash Al Tzion Tahir Venizke Kulanu Bimera Leoro. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le Rav Kook explique. Il explique la phrase du Maharal. Il nous dit la chose suivante. Le Maharal vit il y a 400 ans. Et il y a 400 ans, il y a des concepts qui sont connus, mais qui n'ont pas les mêmes mots que nous aujourd'hui. Il y a une notion qui aujourd'hui est répandue chez tout le monde, que tout le monde connaît, qui s'appelle Kdushat Agouf. La Kedusha qu'il y a dans le corps. Mais à l'époque du Maharal, nous dit le Rav Kook, quand on parle Kdusha, c'est uniquement la Neshama. C'est le langage de cette époque-là. Donc nous dit le Maharal, de Purim, en Kdusha, qui c'est lo azman shel haNeshama. À Purim, par opposition à Hanouka, qui est le Zman de la Neshama, parce qu'on a voulu éteindre la Torah, à Pourim, Zekdusha Taguf. C'est la Kedusha du corps, c'est-à-dire du peuple d'Israël, puisqu'on a voulu à Pourim détruire le corps du peuple juif. On a voulu détruire les juifs, faire la Shoah. Ah ah. Mais on vient de dire que Pourim, c'était Gam Niglé, ve Gam Nistar. Nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouf à Yehudi. C'est notre, nous, dans ce monde avec un corps, qui peut dévoiler et Torah Taniglé et Torah Tanistar. Non, ne crois pas que tu pourras dévoiler les secrets de la Torah quand tu seras redevenu une Neshama. Non. Ça va se passer ici. ça se joue ici. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il manquait un élément pour pouvoir passer de l'explication à la réalisation, tant de Torah Taniglé que de Torah Tanistar. Pour réaliser Torah Taniglé, il manquait à Moshe la terre d'Israël. Puisque l'écrasante majorité de la Torah, Taniglé, des mitzvot, ne peuvent se réaliser qu'en terre d'Israël. Donc pour que Moshe puisse concrétiser sa Torah Taniglé, il lui manquait Eretz Israël. C'est Pourim à qui il manque Eretz Israël. Mais pour réaliser Torah Tanistar, la Torah de l'essence du peuple juif, Torah Tanistar, Dehad Deloyada, qu'est-ce qui manquait à Moshe? Eh bien, il manquait à Moshe le Ham Israël. Il manquait à Moshe que le Ham Israël soit prêt. Lorsque Karan Or Panav Kiad Deloyada va yireu migeshet elav. Ainsi, la fête de Pourim, pendant près de 2300 ans, 2400 ans, a eu le même problème que celui qui en représente son identité parfaite, le même problème que Pourim, le même problème que Moshe Tira. Il lui manquait la terre d'Israël pour réaliser le côté Bismanehem, le côté Mouda de la Torah officielle. Et il lui manquait également l'unité du peuple juif, puisque l'exil nous a dispersés et nous a empêchés d'être Am Israël et de nous comporter comme tel. Ce qui me reste à vous dire, c'est que depuis quelques années, un petit 70, eh bien, ça y est, les deux manquent, tant de Moshe que de Pourim, eh bien, ont été comblés. Nous sommes revenus en Eretz Israël et nous avons ici reconstruit l'unité du peuple juif. C'est ce qui nous permet de dire, eh bien, que maintenant nous n'avons plus le problème qu'avait Moshe et qu'avait Pourim. Nous pouvons enfin dévoiler véritablement les deux dimensions de Pourim. Nous, Bagouf, Shelano, on peut dévoiler le dévoilement de la Torah officielle, Niglet, dévoilée, et également la Torah du déguisement, la Torah du masque de Pourim. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah, quand elle nous dit Megillah nikret beyud alef, beyud bet, beyud gimel, beyud dalet, betet vav, qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, quand on y réfléchit, 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait 65. C'est la gématria du mot Adonai. La Mishnah continue en nous disant Lo pachot velo yoter. Pachot de 11, c'est 10. Yoter de 15, c'est 16. 10 et 16, ça fait 26. Zayutke vavke. C'est ce que nous dit la Torah lorsqu'elle nous dit Zeshemi le'olam veze zichri le'dor-dor. Voilà mon nom pour l'éternité, mais il est un petit peu ne'elam, caché, Zayutke vavke. Et voilà mon nom officiel pour l'éternité, pour les générations, mon souvenir dans toutes les générations, Adonai. Nous sommes la génération qui avons hérité de 2000 ans, 2400 ans, depuis Moshe, 3500 ans. Nous avons hérité cette dualité où nous lisons Yudke Vavke, le tétragramme, mais nous prononçons Adonai. Nous avons hérité de cette réalité-là, de séparation entre la Torah Taniglé et la Torah Tanistar. Mais nous sommes également la génération qui Be'ezrat Hashem, en reconstruisant le Beth Amikdash, va pouvoir réunir ces dimensions et va pouvoir prononcer l'union de Shem Adnout Veshem Avaya, l'union de Adonai et Yudke Vavke, ce qu'on appelle Shem Amefourash, lorsque la Torah Aniglé et la Torah Anistar se réuniront. Chaque année, à Purim, lorsqu'on est Abdeloyada, mais même lorsqu'on est en mode Megillah, nous le faisons sans le savoir. Car juste avant de lire la Megillah, on fait les brachot de la Megillah. Le Baal Koré fait les brachot de la Megillah. Dans le Mishté, on fait les brachot avant de manger. Et que ce soit dans la Megillah ou que ce soit dans le Mishté, une fois que le Baal Koré ou le Baal Aseuda a fait la bracha de Megillah, Al Mikra Megillah, ou la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz, tout le tzibour répond Amen. Amen, Zebegematria 91, qui est l'union de Adonai et Yudke Vavke. C'est l'union de 65 et de 26, l'union de ce dévoilement de toutes les générations et de ce masque de toutes les générations qui enfin, petit à petit, est en train de se dévoiler. Nous sommes la génération qui, avec l'aide de Dieu, pourra enfin réentendre Shem HaMefourash Bebet HaMikdash Bimera Beyamenu, et à ce moment-là, Nishmat Moshe, Nishmat Mordechai et Esther pourront revenir parmi nous pour profiter d'un peuple juif qui a atteint Ad Deloyada tout en étant pleinement Mouda. Chag Sameach, Purim Sameach, à tout le monde. Namaskar.